Je vais passer tout de suite la parole à François Terral. François Terral, qui est membre de l'école, enseignant au Collège clinique du Sud-Ouest et psychanalyste à Toulouse. Il va nous parler du dire politique.
Mais d'abord, merci de cette invitation. Je suis très, très heureux d'être là pour travailler sur ce thème dont je disais que c'est intitulé, c'est en quatre mots, une complexité qui pourrait s'avérer concerner beaucoup, sinon l'essentiel de la psychanalyse. Il nous permet de penser et d'interroger la place de la clinique psychanalytique et celle de son éthique, au regard de la cure, bien sûr, mais aussi de la culture. Pour tenter d'éclairer cette assertion, donc l'inconscient c'est la politique, j'ai choisi de partir du questionnement subjectif, clinique, qu'elle sous-tend. Le risque qui m'est apparu, en effet, serait d'en faire une lecture trop exclusivement centrée sur les questions de discours et de lien social. Et en effet, quand Lacan affirme ça, il le fait en partant d'une réflexion clinique. C'est aussi ce qui doit nous permettre de mieux situer l'idée que pour penser la dimension politique, il est nécessaire de tenir compte de ce qui objecte. En référence à la psychanalyse, ce qui avant tout objecte au politique, ce n'est pas le collectif, c'est un sujet, sans toujours le savoir. Il s'agirait donc de penser aussi la politique en deçà du collectif et du lien social, en deçà donc des dits politiques, par définition dissonants et bruyants. Comment situer donc le dire politique? C'est une question d'où je me suis proposé de partir, que je vais un peu déplier. Donc soutenir que l'inconscience est la politique consiste à faire dépendre celle-ci non pas du collectif, mais du sujet. Or, si nous nous référons au dictionnaire, la politique concerne d'abord la dimension des affaires publiques, des affaires de l'État, et donc celle du gouvernement des hommes, par les hommes, et les fins qu'ils se donnent. Notons quand même que le littré introduit cette nuance du terme politique, situé par extension, je cite, qui a rapport à la conduite des affaires privées, ce qui peut être reçu comme une définition de l'inconscient. Alors donc, je prends le temps de revenir à cette leçon du 10 mai 67 du séminaire La logique du fantasme. Réouvrant le livre du psychanalyste Edmond Bergler, La névrose de base, texte écrit en 1949, donc, que Lacan conseille à ses auditeurs, Lacan s'intéresse au développement qui concerne les dynamiques masochiques dans la névrose. Bergler indique qu'elle conduise le sujet à passer d'une position d'être rejeté par l'autre à celle d'une plainte, d'un apitoiement sur soi-même, source de la jouissance d'un plaisir qualifié de masochique, dit-il. Ce que Lacan souligne alors avec insistance, c'est qu'après tout, il n'est pas si paradoxal de voir un sujet soutenir la position d'être rejeté. Et ces collectionneurs d'injustices, comme Bergler les appelle, terme qu'au passage Lacan fustige, ne sont sans doute pas motivés seulement par quelques perversions qui seraient à condamner. Ne pouvons-nous pas nous-mêmes émettre, contre Bergler, dit Lacan, cette idée que dans certains cas, il vaut peut-être mieux être rejeté qu'être accepté trop vite. Il poursuit, pourquoi cette partialité qu'il serait dans la nature des choses de faire toujours tout ce qu'il faut pour être admis ? Ceci supposant qu'être admis et toujours être admis à une table bienfaisante, dit-il. C'est donc à ce point très clinique que Lacan évoque l'actualité d'un certain petit district de l'Asie du Sud-Ouest. C'est comme ça qu'il dit. En mai 1976, donc, plutôt en Asie du Sud-Est, c'est la guerre au Vietnam. Elle culminera 8 mois plus tard, en janvier 1968, avec l'offensive du Tet, qui marquera le début de la fin pour les forces américaines. Sans doute est-ce à cette actualité qu'il fait référence. Et d'ailleurs, dans ce séminaire, Lacan y fera allusion à 2 autres reprises, à la guerre du Vietnam. Donc. Il s'agit, dit-il, de convaincre certaines gens qu'ils ont bien tort de ne pas vouloir être admis aux bienfaits du capitalisme. Ils préfèrent être rejetés, dit-il. Et puis il poursuit, je le cite plus longuement, il y a peut-être un moment où, quand on sera revenu à une saine perception de ce que Freud nous a découvert, On dira, je ne dis même pas la politique c'est l'inconscient, mais tout simplement l'inconscient c'est la politique. Et il rajoute, ce que Elisabeth évoquait, je veux dire que ce qui lie les hommes entre eux, ce qui les oppose, est précisément motivé de ce dont nous essayons pour l'instant d'articuler la logique. En elle-même, bien sûr, cette dernière phrase dit bien où Lacan veut en venir. Alors, comment en dire un peu plus, puisque lui, au moment où il dit ça, dit qu'il ne fera pas un pas de plus dans cette direction. Pour reprendre le fil de ses arguments, disons que ce qui me semble bien échapper à Bergler, et qui fait qu'au passage le fond de la pensée de Freud lui échapperait aussi, c'est que la position du névrosé qu'il décrit, de n'être pas identifié à l'objet comme effet de chute et de déchet, de reste de l'avènement subjectif, dit Lacan, ne ressort pas de la logique perverse majociste. Plutôt témoigne-t-elle d'un choix du sujet, dont la nature vise à mettre une limite à la jouissance de l'autre. Position symptomatique dans sa dimension de résistance, donc. Et ces termes de position, de résistance, résonnent bien avec celui de politique. Avant de s'apercevoir de ce qu'être rejeté soit essentiel comme dimension pour le névrotique, dit alors Lacan, il faut en tout cas ceci, qu'il s'offre. Cette affirmation permet de revenir à la thématique du fantasme, Lacan soulignant que c'est faute de cette articulation logique que ces glissements, donc ceux de Bergler, peuvent se produire. Ainsi, dire que le choix du sujet de s'offrir ou de se refuser ressort de sa politique est assez facile à concevoir. Mais ce que soutient Lacan, en disant que l'inconscient c'est la politique, vise sans doute à mieux faire valoir un autre niveau. Lacan ne veut-il pas montrer une identité de structure? Donc c'est l'hypothèse que je mets au débat, dont il a sans doute déjà été débattu. Identité de structure que le terme de logique, qui vient dans le titre du séminaire et qui court à chaque leçon, veut approcher par ailleurs. Cette identité de structure, donc, entre l'inconscient et la politique, la logique du fantasme nous permet d'en saisir les effets pour le sujet. Effet de volonté de maîtrise, voire de pouvoir, volonté fondée sur le recouvrement du réel comme cause. Du compte-rendu de ce même séminaire, donc, je retiens deux points. Le fantasme fait fonction d'axiome, dit Lacan. On peut donc dire qu'il renvoie à l'universel et à ce titre surdétermine les dynamiques collectives. Et puis, considérant l'action du clinicien, il nous dit « Rendu au clavier logique, le fantasme ne lui fera que mieux sentir la place qu'il tient pour le sujet. C'est la même que le clavier logique désigne, c'est la place du réel. » Peut-être est-ce à ce point qu'on peut rappeler le mot de Freud concernant les métiers impossibles. Prendre acte de l'impossible dans la conduite du travail analytique, comme dans celle du gouvernement des hommes, voire dans ce qui s'en écrit dans l'histoire, renvoie à une prise en compte de ce que Lacan tente de serrer dans ce séminaire, au niveau de la clinique. La logique du fantasme, celle qui introduit la considération du réel de l'objet petit a dans ce qui se passe pour le sujet, et donc entre les hommes. C'est du reste sur cette question que le séminaire débute, et dès la première séance, un lien est établi avec la dimension politique. Ainsi, cette question en forme de reproche adressée par un analyste à Lacan. Qu'aviez-vous besoin d'inventer cet objet petit a ? Obtient cette réponse de Lacan. Donc, à prendre les choses d'un horizon un peu plus ample, il était grand temps. Grand temps de ramener dans la réflexion analytique, fin de citation, c'est moi qui poursuis, grand temps donc de ramener dans la réflexion analytique, mais aussi politique, la considération du réel de l'objet petit a. Considération qui ne cesse pas d'échapper, ce qui peut nous amener à dire qu'en fait, il est grand temps tout le temps. La suite du propos dans le séminaire est moins limpide, puisque la transcription du texte du séminaire semble incomplète. Je propose de lire qu'avec l'objet petit a comme désignation possible du vide central du champ que Freud découvre, se trouve renouvelé, je cite donc dans le séminaire, « ce qui s'est fait comme analyse, dit Lacan, tant de la subjectivité que de l'histoire et de son interprétation. » Et Lacan d'évoquer le totalitarisme, jugeant qu'il y a là un terme impropre. Impropre, il l'est sans doute, de justement effacer la considération de ce vide. Un vide, un trou, au regard duquel la violence folle du totalitarisme témoigne que tenter de le recouvrir est vain et ne mène à aucune liberté. C'est la misère des historiens de ne pouvoir lire que le sens, dit Lacan dans l'étourdie. Car en effet, c'est misérable sans doute d'évacuer la question de l'éthique. Mais heureusement, tous les historiens ne le font pas. Alors, afin d'amener une ponctuation à ces premiers éléments, je voudrais articuler ce que je viens d'exposer aux précisions apportées sur l'inconscient dans Radiophonie. Car il me semble nécessaire d'éclairer mieux ou d'éprouver mieux l'identité possible entre inconscient et politique que je retiens donc comme étant de structure. Ce que Lacan amène à la question 5 débute par une rectification. L'inconscient n'est pas une notion, dit-il. Plus loin, il va dire « la structure, elle, c'est une notion ». L'inconscient n'est pas une notion. Il doit nous suffire de poser que l'inconscient est, ni plus ni moins. Alors, le caractère concluant du propos permet de saisir ce qu'il formule plus loin, donc, au moment d'évoquer nos réalités de lien social, à savoir celles qui ont cours sur l'océan peu pacifique de la production capitaliste, comme il le dit. Pour mieux serrer que l'inconscient c'est la politique, j'en retiens les éléments suivants. Il concerne le malaise. Allons-nous, ce malaise, le mettre au compte de l'inconscient, demande Lacan. Certainement, oui. Il s'y désigne que quelque chose travaille, dit-il. Et plus loin, quoi donc attendre du champ de ce malaise ? Rien, sinon de témoigner de l'inconscient qu'il parle, d'autant plus volontiers qu'avec le non-sens, il est dans son élément. Voilà qui là aussi va à la racine de la question, donc. Et j'en souligne l'évidence, si le lien social contemporain produit du non-sens, cela a d'abord à voir avec la position du sujet dans son rapport à la jouissance, à l'occasion désignée par Lacan comme « soif du manque à jouir », car le malaise, donc, est d'abord malaise du sujet. Mais tout ceci n'est pas sans s'articuler à l'idée que le sujet pris dans le discours du capitaliste a, depuis Freud, un recours possible, que la dynamique même de l'inconscient ménage pour lui. Cette dynamique, Lacan le précise dans la suite du texte, est celle d'un changement de discours possible. Et le recours, donc, celui d'interroger pour lui-même le non-sens auquel vivre le confronte. Et ce faisant, pour peu qu'il pousse un peu les choses, d'ouvrir les yeux sur la responsabilité qu'il y prend. Ainsi, si pour l'être parlant l'inconscient est, je propose de considérer que comme l'inconscient, la politique est, ni plus ni moins. Comme l'inconscient, elle n'est pas une notion. Et je propose de la situer, donc, Elisabeth faisait cette même hypothèse, comme nous situons l'inconscient, à savoir du côté d'un effet de langage. À ce titre, elle peut se définir comme point vide à partir duquel le sujet a à se positionner comme séparé des autres pour trouver sa place parmi les autres. Il en va de son acte, celui de l'invention d'un vivre ensemble d'abord à partir de lui, avant de l'être avec les autres. C'est dire les marges de manœuvre possibles, et puis dire aussi leurs avatars cliniques, et donc politiques. Aussi pourrait-on proposer qu'il y a un dire politique, réponse du sujet dans sa rencontre du langage, qui lui permettra d'entrer dans les dits de la politique. C'est ainsi que je lis Lacan qui, prenant acte du brouillage des places dans l'évolution du lien social, soulignait, s'adressant aux étudiants américains en 1975, « Il n'en reste pas moins qu'à travers les structures différentes, la relation dite politique continue d'exister. Elle existe plus solidement que tout autre. » Ces considérations permettent-elles de mieux penser la place de l'analyste ? Elles nous ramènent en tout cas à la dimension de la pratique analytique et à celle de l'acte. Si la question politique le concerne, c'est d'abord en tant qu'elle intéresse la jouissance du sujet. À ce titre, on le sait, il n'a pas à prendre parti. Et ce qui est propre à la psychanalyse, c'est que l'analyste puisse faire offre d'un lien social différent de celui dans lequel le sujet parvient à trouver plus ou moins bien une place. Et permettre au sujet de faire lien social dans le discours de l'analyste, est une façon de soutenir un acte qui répond de la politique, puisqu'un tel discours ouvre sur la possibilité d'un dire nouveau, un dire qui change tout pour l'analyseur. Donc. À cet égard, pourquoi devrait-on se désoler, comme on l'entend parfois, que ce soit au un par un? Il est impossible que ça se fasse différemment. Alors, ceci étant posé, j'ai choisi d'élargir pour finir un peu mes références, donc à la pensée d'une spécialiste de la question politique, Hannah Arendt. Je ne la présente pas, sinon pour préciser quand même à ceux qui ne le sauraient pas que Arendt et la psychanalyse, à la lire, ça fait deux. C'est explicite dans quelques rares développements sur le sujet. Pour autant, sa pensée est marquée par la considération de la domination de la science et de la technique sur l'homme, y compris dans le registre de la psychologie. Et elle a su ne pas se distraire du plus concret de ce contexte. Témoignant, il me semble qu'elle avait saisi quelque chose de ce que par ailleurs Freud avait nommé pulsion de mort. Ce qui ne l'empêche pas de rejeter cette idée, ou au contraire l'y pousse, et de manière explicite. Alors je m'en tiens à une question. Retrouve-t-on donc dans ces développements l'indice d'une considération de la politique comme ressortissant d'autre chose que de la pratique collective de la politique ? Existe-t-il donc pour Arendt la dimension, l'expérience, le lieu d'un dire politique fondateur, donc une approche de la question qui ne se limite pas au dit de l'action politique collective? C'est ce qu'il me semble possible de pouvoir soutenir donc quand, à la fin des années 50, dans un texte intitulé « Qu'est-ce que la politique ?», elle affirme « La philosophie a deux bonnes raisons de ne jamais trouver le lieu de naissance de la politique. » La première raison concerne le zone politicon d'Aristote, donc l'homme est un animal politique, dont nous a parlé Elisabeth. Je cite « Comme s'il y avait en l'homme, dit Arendt, quelque chose de politique qui appartiendrait à son essence. C'est précisément là qu'est la difficulté. L'homme est apolitique, dit-elle. » Elle poursuit en disant « La politique prend naissance dans l'espace qui est entre les hommes. » Donc dans quelque chose de fondamentalement extérieur à l'homme. Il n'existe donc pas une substance véritablement politique, je cite toujours, hein. La politique prend naissance dans l'espace intermédiaire et se constitue comme relation. » Fin de citation. C'est de cette naissance qu'on peut dire que la politique est, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle apparaît, et cette naissance s'articule au fait sur lequel, selon Arendt, repose de la politique, soit ce qu'elle appelle la pluralité des hommes, celle d'être absolument différente, dit-elle encore. Au passage, c'est logiquement aussi sur ce point, donc de la pluralité, qu'elle fait reposer un élément d'analyse du totalitarisme, au sujet duquel elle dit qu'il convient d'utiliser le mot avec prudence. Le totalitarisme, précise-t-elle, s'efforce d'organiser la pluralité et la différenciation infinie des êtres humains comme si l'humanité entière ne formait qu'un seul individu. Le problème, remarque-t-elle, est de fabriquer quelque chose qui n'existe pas, à savoir une sorte d'espèce humaine qui ressemble aux autres espèces animales et dont la seule liberté consisterait à conserver l'espèce. Fin de citation. Conserver l'espèce, fantasme qui était explicitement celui d'Hitler et qui me semble témoigner d'une tentative donc d'annuler le réel de ce que nous appelons entre les hommes le non-rapport. La seconde bonne raison, puisqu'elle nous disait qu'il y a deux bonnes raisons pour dire que la philosophie n'arrive pas à préciser les choses concernant la politique, la seconde bonne raison parle des déchaînements de notre époque. Arendt la situe dans, je cite, « la représentation monothéiste de Dieu, du Dieu, à l'image duquel l'homme est censé avoir été créé. À partir de là, dit-elle encore, seul l'homme peut exister, les hommes n'étant qu'une répétition plus ou moins réussie du même. » Et de souligner qu'à ce titre, il peut se passer que, je cite, « les hommes deviennent haïssables parce que leur existence est insignifiante. » Lacan ne me semble pas partir d'un autre point dans son développement à la toute fin du séminaire 11, en 64, donc, concernant l'histoire du nazisme et l'offrande faite au dieu obscur d'un objet de sacrifice. Ce qu'il rajoute, par contre, c'est que rien ne s'en saisit vraiment, d'un point de vue politique, sans la considération de l'objet petit a, donc, comme objet de désir. Une autre entrée possible, donc, dans l'élaboration d'Arendt sur la politique, peut être celle de cette question qu'elle dit énoncée de façon désespérée. La politique a-t-elle finalement encore un sens ? C'est une partie du bouquin dont je parlais. Ce possible non-sens de la politique, qui, dit-elle, est un état de fait extrêmement réel, dont nous pouvons faire l'expérience quotidienne, je vous rappelle qu'elle écrit ça il y a plus de 60 ans, donc, ce possible non-sens de la politique trouve sa première raison dans les préjugés, dit-elle, que chacun nourrit à l'égard de la politique. Dimension du social inéliminable selon Arendt, qui ressort, dit-elle, du « on dit, on pense », appuyé sur aucune expérience et comme telle ne faisant appel à aucun jugement. On retrouve, il me semble, dans ce « on dit, on pense » la structure du fantasme. Sauf que, rappelle Arendt, la pensée politique est essentiellement fondée sur la faculté de juger. Faculté qui concerne chacun avant de concerner le collectif. Thèse centrale de son enseignement. On devine alors le hiatus profond. Il pose vivement la question du sens de la politique et en toute logique peut effectivement pousser chacun à la jouissance d'en dénoncer l'inanité. Mais c'est surtout, je vais finir là, c'est surtout au désastre politique de notre époque auquel elle fait référence. Soit l'expérience du totalitarisme et l'apparition de la bombe atomique, les deux étant liés historiquement. Difficile d'estimer qu'en 2017, tout ceci soit de notre temps, que cela ne nous concerne plus. Et l'actualité de ces derniers mois, et même de ces derniers jours, donc, d'un petit district de l'Asie du Sud-Est au nord de la Corée du Sud, ne me semble représenter qu'une part des raisons, disons la part émergée de la chose. L'analyse d'Arendt est en effet plus large, plus fondamentale, même si elle articule ça au totalitarisme et à la bombe H. Elle saisit avec elle, donc, cette analyse, ce que nous situons comme effet délétère du discours de la science. Elle nous indique précisément sur ce qui pèse sur nos quotidiens, une menace. C'est son terme, il revient plusieurs fois dans ce texte. Celle de l'anéantissement, non pas de ce qui a été produit par l'homme, qui est toujours susceptible d'être reconstruit, dit-elle, mais de ce qui n'a pas été produit par l'homme, soit, je cite donc, un monde de relations humaines issues de la parole et de l'agir, qui par eux-mêmes sont sans fin et d'une grande stabilité, dit-elle. Ce monde spécifiquement humain, rajoute Arendt donc, constitue la politique au sens étroit du terme. Et elle souligne qu'il n'est pas né de la force et du pouvoir des individus isolés, mais de la pluralité, terme propre à l'humain, donc. Je me disais que les abeilles qui font beaucoup ensemble ne connaissent pas la question de la pluralité, n'ont aucune expérience de ça. Donc, que ce monde soit menacé, donc, c'est là une façon plutôt nette de définir les effets conjugués du discours de la science et du capitalisme quand ils viennent à dominer. Donc. Je conclus donc. Quand Lacan dit « l'inconscient, c'est la politique », et quand il dit « notre politique à nous, c'est notre façon de concevoir un certain lien social », le terme politique ne renvoie pas à la même chose. La distinction que j'ai voulu souligner nous amène à considérer la variété des liens sociaux comme une part de nos expériences de la politique, l'autre pouvant se saisir à partir des dimensions de l'éthique et de l'acte. Deux conséquences, finalement, de l'effet de langage. Donc il n'y a pas qu'une façon de faire avec la politique. Peut-être s'agirait-il de se guider sur celle qui advient d'avoir, autant que possible, pu se libérer de ses propres préjugés sur la politique. Perspective dont je me disais qu'elle vaut sans doute aussi pour une école de psychanalyse. Et là aussi, comme on le sait, succès insuffisant assuré, donc nécessité que chacun puisse en dire les possibles.